en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Lors d'une réception à l'Académie française, un journaliste qui lui demanda de s'exprimer autour de la pensée de Mircea Eliade, Claude Lévi-Strauss répondit de manière tranchante « C'est intéressant, mais trop sacré. » À ma connaissance, c'est la seule citation de Lévi-Strauss que Lévi-Strauss réserve à l'historien des religions, dont l'œuvre présente pourtant des thématiques proches de celles développées par l'anthropologue français. Or, cette référence négative au sacré pose assurément le problème d'une certaine frilosité théorique de Lévi-Strauss vis-à-vis des horizons religieux dans lesquels il inscrit les phénomènes qu'il analyse. Mais elle dénonce, sans conteste, un travers de l'histoire des religions qu'Eliade illustre de manière exemplaire. C'est lui consistant à chercher à expliquer la structure et le fonctionnement des sociétés humaines par le biais exclusif du religieux. Depuis cette perspective, l'homo sacer semble être à l'origine de toute manifestation de violence, alors qu'il n'en est qu'une des sources possibles, comme le montrent justement les guerres qui se sont parées historiquement de l'aura du sacré, les guerres de religion. C'est au contraire en une religion que certains penseurs visent à transformer la guerre, au point de parler d'une véritable sacralité, voire d'une religion de la guerre. Ainsi, au lieu de traiter du lien entre guerre et religion dans une des sociétés étudiées par les ethnologues, nous avons commencé à réfléchir sur la manière dont les historiens des religions ont pensé la guerre en utilisant des données provenant des sociétés dites primitives. Soulignons au préalable que les historiens des religions tirent souvent leur généralisation de telles sociétés qu'ils ont tendance à les considérer comme un tout indifférencié. Raison pour laquelle nous avons trouvé parfaitement adhérent à notre propos le titre au singulier, la société primitive que nous avait été proposée par M. Bachelet et que nous avons enfin retenu. Il faut donc dire que le titre est la société primitive. C'est ma faute parce que j'avais donné un deuxième titre alors que j'avais retenu le premier qui m'avait été justement suggéré. Enfin, nous aborderons ce problème sans trop tenir compte des étiquettes disciplinaires officielles. La pensée religieuse d'un sociologue comme Roger Caillois et ses opinions sur la guerre constituera notre point de départ. Nous aborderons également les idées de René Girard, mais en passant par un ethnologue, Pierre Clastre, dont l'envergure religieuse concernant la guerre n'apparaît pas à première vue, mais n'en est pas moins présente. Notre choix est restreint, mais il permet d'esquisser les grandes lignes d'une certaine continuité dans la manière de penser et de justifier la guerre dans les cultures de l'Occident. Commençons donc par Caillois. De premier abord, ce ne sont pas ses positions politiques, ni son activité d'organisateur de lieux de débat comme le Collège de sociologie qui nous intéresse, ni non plus la réécriture de son propre profil intellectuel dans les déplacements politico-intellectuels de l'après-guerre. Nous nous tiendrons strictement à ses écrits, et notamment à l'appendice sur « Guerre et sacré » qu'il ajoute en 1950 à la réédition de L'homme et le sacré, publiée en 1939. Nous prendrons en considération également le livre Bellone ou La pente de la guerre, publié en 1950. Comme l'a bien saisi Lucien Febvre dans une courte recension à L'homme et le sacré, qui lui rend trop généreusement hommage, c'est par la similitude avec la fête, et notamment avec la fête primitive, que Caillois développe sa vision presque, je dirais, théologique de la guerre. Après avoir défini la fête primitive comme un temps d'excès, où on gaspille les réserves, on viole les lois les plus saintes, où on installe une nouvelle discipline, Caillois postule qu'il n'y a qu'un phénomène qui révèle une importance, une intensité, un éclat comparable et de même ordre de grandeur que la fête. Ce phénomène est la guerre. Certes, il est bien conscient qu'en recouvrant l'opposition entre la vie et la mort, ainsi qu'entre la joie et la douleur, la fête et la guerre s'opposent terme à terme. Mais il en déduit de manière stupéfiante que, je cite, « la recherche de leurs différences devra servir à préciser et à compléter les conclusions inspirées par les similitudes qu'elles laissent constater. Les différences entre la fête et la guerre n'ont ainsi qu'une valeur purement instrumentale. Elles ne sont là que pour mieux faire ressortir ce qui, au contraire, les lie. » Mais alors que les contenus qui opposent la fête et la guerre sont évidents, car il ne peut pas y avoir de rassemblance entre le froid d'une tranchée, un repas de Pâques ou de noces. Ce qui les unit est un peu plus difficile à cerner. Pour parler de ces similitudes, Caillois a recours à des concepts qui ne sauraient être plus vagues et qui pourraient surtout s'appliquer à bien d'autres domaines que ceux que nous sommes en train d'étudier. Il suffit de citer ce passage. La similitude de la guerre avec la fête est absolue. Toutes deux inaugurent une période de forte socialisation, de mise en commun intégrale des instruments, des ressources, des forces. Parmi les autres traits communs aux deux phénomènes, Caillois envisage l'effervescence collective et l'adresse à concentrer ou à mettre en branle le plus de forces possible en un point donné. Bref, des sentiments et des stratégies simples qui, de toute évidence, ne valent pas seulement pour la fête ou pour la guerre. Également générique apparaît l'équivalence entre, d'une part, la fête et le temps de labeur, et d'autre part, la guerre et le temps de paix. Pour Caillois, ce sont toutes deux phases de mouvement et d'excès en regard de phases de stabilité et de mesure. Mais ces rapprochements ne font qu'effleurer le cœur de la question, à savoir le rapport que Caillois entretient avec les sociétés dites primitives. Car le fait de se revendiquer de l'enseignement de Marcel Mauss à l'école pratique des hautes études ne lui a pas empêché de développer envers ces sociétés une aptitude ambivalente, ce qui a été durement mis à l'épreuve dans la fameuse querelle qui, entre 1954 et 1955, l'opposa à Lévi-Strauss. En effet, pour pouvoir imaginer que lors de la fête primitive, tous les excès sont permis, car des excès même, des gaspillages, des orgies et des violences, la société attend sa régénération, il fallait non seulement ne plus donner de référence ethnographique à leur dont en revanche son article sur la fête de 1939 abonde, mais il fallait aussi associer au phénomène festif une société primitive non mieux identifiée. Rapprocher la fête primitive de la guerre moderne comme s'il n'y avait pas de guerre à étudier dans les sociétés primitives, ni de fête dans les sociétés modernes, revient en effet à exprimer un certain regard idéologique et confus sur les sociétés primitives. C'est bien le genre de reproche qui lui a adressé Lévi-Strauss en utilisant les mêmes mots de Caillois et que vous me permettrez ici de citer intégralement. N'est-ce pas lui que jadis a cru faire choix de l'ethnographie poussé par le besoin de préférer la plastique primitive au portail de Chartres, le jazz à Mozart, n'est-ce pas lui qui a cédé à un moment à l'appel des forces, fruste incontrôlable? N'est-ce pas lui qui, par crédulité naïve dans le prétendu principe de participation, a condamné la logique occidentale et s'en excuse aujourd'hui en invoquant le caractère désordonné et impulsif d'une gourmandise juvénile. Notons au passage que l'expression « société fruste » est précisément celle que Caillois avait utilisée dans la guerre et le sacré et qui renvoie au principe de participation de type prélogique mis en place par Lévi-Brull. On comprend ainsi comment l'inceste prescrit dans la fête et le meurtre recommandé dans la guerre, ce sont les mots de Caillois, soit pour Caillois des actes de résonance religieuse qui, d'une part, imposent un déchaînement indiscipliné d'instinct furieux, de l'autre, tiennent, selon lui, du sacrifice humain. Citons du paragraphe « La joie de détruire ». Enfin, on voit sourdre la joie longtemps contenue de détruire, le plaisir de laisser un objet informe et méconnaissable, la volupté connue du médecin de s'acharner sur une pauvre chose jusqu'à l'avoir convertie en un débris qui n'est pas de nom. Et encore, une fureur saisit le guerrier où il croit sentir reprendre ses droits, un instinct premier enfoui au fond de son cœur par une civilisation menteuse. Pour représenter cet instinct premier, Caillois se sert des mots utilisés par Ernst Jünger dans un article emblématique dès son titre, « La guerre, notre mère ». Alors, dans une orgie furieuse, l'homme véritable se dédommage de sa contenance. Les instincts trop longtemps réprimés par les sociétés et ses lois redeviennent l'essentiel, la choix sainte et la raison suprême. C'est par cette immersion déréglante des instincts que la guerre atteint, selon Caillois, son état d'esprit authentiquement religieux, en apparaissant non moins que la fête comme le temps du sacré, la période de l'épiphanie du divin. En effet, cette similitude fonctionnelle de deux paroxysmes sociaux donne à Caillois à la fois la possibilité de repousser les prétendus primitifs dans l'ordre de la nature et des instincts, ainsi que l'occasion d'une véritable apologie de la guerre qui n'a jamais renié dans ses écrits successifs, par exemple Bellone, où il pousse à l'extrême le vertige de la guerre. Le point de vue de Caillois se précise finalement comme une religion de la guerre. La sacralisation de la guerre se justifie dans sa pensée par l'analogie avec la dimension religieuse de la fête primitive. Ainsi, comme les fêtes ouvrent les portes du monde des dieux en permettant à l'homme de s'y métamorphoser et d'y atteindre une existence surhumaine, de même, et on entend bien ici des échos eliadiens, la guerre apparaît comme un repère dans l'écoulement de la durée. Et encore, comme l'on cherche par les fêtes le rajeunissement périodique de la société, en prétendant recueillir de leur célébration une nouvelle ère de vigueur et de santé, la guerre n'intervient plus dans le monde, écrit Caillois, comme un accident, mais comme la norme même de l'univers. Elle devient rouage essentiel du cosmos et comme telle acquiert une valeur décidément religieuse. On célèbre ses bienfaits. À vrai dire, Caillois manque de préciser qui, vainqueur ou vaincu, par exemple, célèbre les bienfaits de la guerre, alors qu'il arrive à imaginer qu'aussi le mortel qui en sera la victime en vient à regarder la guerre comme nécessaire. L'explication donnée par l'auteur en est autant simple que terrifiante, en quelque sorte. Elle, la guerre, n'est plus barbarie, mais la source de la civilisation est sa plus belle fleur. Tout se crée par la guerre, et la paix fait tout dépérir par enlisement et usure. Aussi faut-il des guerres pour régénérer les sociétés et les sauver de la mort. Elles les préservent des effets du temps irréparables, encore un concept eliadien. On prête à ces bains de sang la vertu de l'eau de jouvence. Fin de citation. Jusque dans le vocabulaire, la mythologie de la guerre est rapprochée du pouvoir de régénération de la fête primitive. On fait d'elle, de la guerre, comme une déesse de la fécondité tragique. On la compare à un gigantesque accouchement, c'est les mots de Kailua. Et comme la mère risque sa vie en donnant le jour à l'enfant, et si Kailua atteint vraiment le sommet de son lyrisme cynique, ainsi les peuples doivent payer un tribut sanglant pour fonder ou perpétuer leur existence. La guerre, conclut Kailua en citant le docteur Goebbels, la guerre est la forme la plus élémentaire de l'amour pour la vie. Et en utilisant le fameux propos du général Ludendorff, il en arrive à soutenir que la guerre ne doit pas servir à fonder la paix, mais la paix à préparer la guerre, car elle n'est qu'un simple et transitoire armistice entre deux conflits. Le cas de Pierre Clastres est lui aussi paradoxal. Ethnologue formé par deux grands maîtres comme Alfred Métraux et Lévi-Strauss, et avec une expérience de terrain remarquable au Paraguay chez les Aché Guayaquil et chez les tribus du Chaco central, surtout du côté paraguayen, il a élaboré un discours sur la guerre que quelques aspects permettent de rapprocher des perspectives essentialistes des historiens des religions. Nous faisons référence aux deux articles « Archéologie de la violence, la guerre dans les sociétés primitives » et « Malheur du guerrier sauvage » publiés en 1977 à la Revue Libre avant de confluer dans le volume « La société contre l'État ». Hormis le sous-titre du premier article, l'expression « la société primitive » revient de manière presque obsessionnelle sous la plume de l'auteur. Dans la première page du premier article, il citait cette expression 4 fois. Expression accompagnée d'autres expressions autant significatives comme l'être social primitif ou l'homme primitif. Expression dont l'ethnologie à cette époque s'était déjà presque complètement débarrassée. Cette singularisation des sociétés dites primitives s'accorde bien avec la thèse défendue par l'auteur. Clastres postule l'existence dans cette société primitive d'un état de guerre permanent qui relève du statut d'étranger, d'ennemi que l'on accorde à l'autre. Il s'agit d'un état virtuel, n'impliquant pas nécessairement le passage à l'acte, mais garantissant que toutes les communautés se maintiennent dans leurs différences respectives, afin d'empêcher le changement social et d'assurer la permanence de la dispersion, du morcellement, de l'atomisation des groupes. Serait celui-ci l'intérêt des sociétés dites primitives. Pour le dire avec les mots de Clastres, la permanence de la société primitive passe par la permanence de l'état de guerre. Et encore, avec une précision majeure sur son hypothèse, il écrit « Immanente à l'être social primitif, donnée immédiate et universelle de son mode de fonctionnement, la violence guerrière apparaît dans l'univers des sauvages, le S est majuscule chez Clastres, comme le principal moyen de conserver dans l'indivision l'être de cette société en son autonomie de totalité une, il souligne, totalité une, libre et indépendante des autres. Obstacle majeur dressé par les sociétés sans État contre la machine d'unification que constitue l'État, la guerre appartient à l'essence de la société primitive. » Fin de citation. Or, non seulement il est difficile d'imaginer que cet être social primitif, guerrière par essence, s'oppose délibérément à un État dont on postule la non-existence dans la société primitive, mais les recherches ethnographiques ont montré de manière irréfutable que les activités belliqueuses sont presque toujours compensées par des stratégies d'alliance et d'échange. Ces stratégies, y compris matrimoniales, d'échange matrimonial, sont poursuivies parfois à l'intérieur d'un même groupe ethnique, le cas des Ayoré que j'ai étudié, par exemple, qui alterne ainsi parmi ces sous-groupes les relations violentes et celles d'échange. L'unité du monde amérindien, des mythes à la culture matérielle, aux rites, en témoigne de manière décisive. Sans cette unité relevant de l'échange, il n'y aurait pas eu pas pu avoir les mythologies de Lévi-Strauss, ni la découverte de l'ontologie animiste par Philippe d'Escola, ni l'application de la formule canonique de Lévi-Strauss à l'analyse des rites par Emmanuel Devaux. L'affirmation que toute société primitive est guerrière, d'où l'universalité ethnographiquement constatée de la guerre dans l'infinie variété des sociétés connues, primitives connues, est un truisme que la connaissance ethnologique des sociétés humaines est à même de pouvoir démentir. On peut certes prendre la mesure, oui, des différences entre dans les conceptions et les pratiques de la guerre dans les sociétés dites primitives, mais il serait impossible de limiter la guerre à celle-ci. Une question se pose. Qu'est-ce que pousse Clastre à élaborer l'idée d'une société primitive vouée essentiellement à la guerre, où les hommes ne sont que des guerriers en quête de réaliser l'exploit suprême de la mort? N'y a-t-il pas dans cette conception de la guerre une espèce de sacralisation analogue à celle recherchée par Caillois? Il suffit de citer l'exemple ethnographique par lequel Clastre, tiré du Chaco central, des groupes du Chaco central, par lequel Clastre veut prouver que, je cite, « le guerrier est en son être pour la mort ». En s'opposant à de Brisophère, pour qui les abipones du Chaco recherchent la gloire mais jamais la mort, Clastre affirme, en s'opposant presque en théologien, les guerriers, abipones ou autres, ne cherchent peut-être pas la mort pour elles-mêmes, mais elles adviennent inévitablement au bout du chemin qu'ils sont décidés de parcourir. Cherchant la gloire, ils rencontrent la mort. On ne peut donc que se surprendre du taux de mortalité chez les guerriers. Les anciennes chroniques ont retenu surtout la figure et le nom des meilleurs parmi les guerriers, à savoir les chefs de guerre. Presque tous meurent, tôt ou tard, au combat. Tant de persévérance en cet être pour la mort suggère peut-être que la passion pour la gloire agissait au service d'une plus profonde passion, nous dit Clastre, ce que nous nommons l'instinct de mort. L'auteur souligne, et nous soulignons avec lui, instinct qui non seulement traversait le groupe des guerriers, mais contaminait plus gravement l'ensemble de la société. Les femmes, en effet, ne refusaient-elles pas d'avoir des enfants, vouant ainsi les tribus à une rapide disparition? Vouloir mourir collectif, en conclut Clastre, d'une société qui aspire à ne plus se reproduire. Or, prête à reconnaître l'existence d'une pulsion de mort chez les abipones, une pulsion à laquelle ne semblent néanmoins pas étrangers les effets de la colonisation, on ne voit pas comment elle puisse être étendue aux guerriers d'une prétendue société primitive et servir à protéger celle-ci contre l'avènement de l'État. C'est peut-être dans cette tentative de généralisation par les instincts qu'il se cache une procédure typique des systèmes religieux. Il y a là une constante intéressante à explorer. Car l'association de la guerre aux instincts, qu'ils soient d'inceste ou de mort, non seulement nous offre une vision réduite de la dimension instinctuelle propre à l'homme, mais encore elle empêche de saisir la caractérisation de phénomène social total de l'activité belliqueuse avec ses règles et son rapport compliqué et complexe à la paix. En effet, nous assistons à une sorte de naturalisation de la guerre à laquelle, par des parcours différents mais non moins idéologiques, fait penser la théorie mimétique de René Girard. En considérant lui aussi la société primitive comme un tout indifférencié, cet auteur plie la guerre aux exigences du religieux, tout en l'alliant de manière subtile, la violence aux exigences du religieux, tout en l'appliant de manière subtile, comme on le verra, à la guerre. En réfutant d'assimiler les textes bibliques à des mythes, surtout ceux des sociétés primitives, Girard veut affirmer tout d'abord le caractère irréductible de la différence judéo-chrétienne. Il n'empêche que la singularité des textes bibliques, relevant selon Girard de l'innocence de la victime et de la réalité historique du meurtre, l'idée, comme on sait, est empruntée au Freud de Totem et Tabou, ne peut pas se dérober, néanmoins, au mécanisme sacrificiel qui, suivant ces mêmes hypothèses, est partout à l'œuvre. En effet, selon Girard, les évangiles et les mythes des peuples dits primitifs présentent la violence comme un recours nécessaire pour mettre fin à la crise mimétique qui la précède et qui risque de submerger la communauté. Celle-ci ne peut se réconcilier que contre une victime unique, le bouc émissaire. Nous avons montré ailleurs comment Girard est obligé de forcer les textes pour valider sa théorie. Par exemple, dans le passage de l'Évangile de Matthieu, où il n'est pas du tout question, comme il le croit, l'écrit, d'une expiation collective de la mort de Jean-Baptiste. Expiation collective, c'est le mot qu'il utilise. Car ce ne sont pas les invités au génétriaque d'Hérode Antipas qui réclament la tête de Jean. Ceux-ci, les invités, ne sont que des témoins passifs. Et la foule aimait le prophète au point qu'Hérode, jusqu'à la danse de Salomé, avait évité de seconder les propos et la requête le désir d'Hérodiade, justement par crainte de cette foule qui aimait Jean. C'est sur un autre aspect de la théorie de Girard que nous voulons attirer l'attention. Son système symbolique repose sur une idée simple. L'homme, par sa nature, serait poussé à désirer les biens du prochain, comme le stigmatise le 10e commandement. Ce désir mimétique engendre une situation conflictuelle qui risque de rester sans issue puisqu'il a tendance, le désir mimétique, à se propager de manière contagieuse. Une contagion du désir, pourrait-on dire en paraphrasant la contagion des idées de Dansperger. Il faut donc l'interdire, car sinon, nous dit Girard, je cite, « la guerre serait perpétuelle au sein de tous les groupes humains, de tous les sous-groupes, de toutes les familles. La porte serait grande ouverte au fameux cauchemar de Thomas Hobbes, la lutte de tous contre tous. » Au fond, pareille justification religieuse est fournie par Girard dans l'ouvrage achevé Clausewitz. D'une part, il cherche à compléter la réflexion sur la guerre absolue mais en l'identifiant avec la réalité de la violence contemporaine, alors que pour le stratège prussien, cette guerre absolue n'est qu'un concept, comme l'a bien saisi Raymond Aron. D'autre part, il cherche à invalider la formule clausewitzienne de la guerre comme continuation de la politique par d'autres moyens, en prônant tout simplement la disparition de l'objectif politique. À l'instar de Clausewitz, Girard conçoit donc la guerre comme un duel à grande échelle, mais il la retraduit dans les termes du désir mimétique qui pousse les hommes à la violence. Il considère ainsi que l'étude de la guerre ne relève plus de la science politique, ni de la réunion envisagée par Jean Bachelet, des points de vue sociologiques, philosophiques et historiques. Pour Girard, l'étude de la montée aux extrêmes ne revient qu'à l'histoire des religions. En particulier, il voit dans le Christ à la fois la source et la solution de l'apocalypse qui risque aujourd'hui de mettre fin à l'humanité. Car à l'annonce qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, fait pendant, pour Girard, l'attente du retour salvifique du Christ sur la terre. Or, faute de temps, nous nous limitons à remarquer que ce verset de Matthieu, 10:34, n'est qu'un aspect de la manipulation symbolique des structures parentales mises en place dans les évangiles. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, ajoute précisément le Seigneur. Alors que Girard ne retient que la première partie des mots du Christ, tout en les prenant au pied de la lettre. Il en est de même dans l'usage qu'il fait de l'idée de Lévinas que, je cite, « seuls les êtres capables de guerre peuvent s'élever à la paix, en inférant, paroles de Girard, que l'homme naît de la guerre et que l'héroïsme serait, dans cette perspective, l'épreuve de la liberté. Une conclusion non usuelle, si vous le permettez. Dans la quatrième de couverture de Bellone, on peut lire que Roger Caillois présente un propos original sur la guerre et fait tomber quelques idées reçues, notamment sur l'humanisme pacifiant, l'égalité et les droits de l'homme. Nous voudrions confirmer tout simplement qu'il est encore possible de s'engager pour ces idées, pour un humanisme pacifiant, pour l'égalité et les droits de l'homme. Merci.